Et la question qu'on vous posait hier concernant la question du jour était la suivante. Faut-il réinstaurer, selon vous, un service civil ou militaire en Belgique? Eh bien, le résultat de ce mini-sondage est intéressant finalement parce que sur Facebook, vous êtes 40% à y être favorable à la réinstauration d'un service civil ou militaire en Belgique, contre 60% qui y sont opposés. Sur Instagram, eh bien, tendance inverse avec 75% d'entre vous qui pensent que ce serait bien qu'il y ait de nouveau un service civil ou militaire en Belgique et 25% qui y sont opposés. Et sur Twitter, eh bien là, c'est sans appel, 100% de oui. Nous allons en discuter avec notre invité. Il est psychologue, il s'appelle Jean Van Emmelreich. Bonjour Jean Van Emmelreich.
Bonjour, bonjour.
Ravi de vous retrouver sur cette antenne, Jean. Que vous inspire le résultat finalement de ce mini-sondage, à part sur Facebook où la tendance est clairement au non, à 60-40, sur Insta et sur Twitter, on est à 75 et 100% de oui.
Alors, je ne maîtrise pas assez les réseaux sociaux pour pouvoir connaître la nuance, mais c'est vrai que c'est une question qui divise, une question complexe, parce que justement, les réseaux sociaux sont les partenaires d'un processus social qui est très complexe, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est une aberration langagière, ils ne sont pas sociaux. Ils créent plutôt un sentiment d'individualité, ils ne participent pas d'un mouvement collectif, alors que la question que vous posez touche au collectif. La question militaire est une question politique, donc là-dessus, moi, je n'ai pas d'avis à donner, ce n'est pas mon job, mais la question du service civil, c'est-à-dire de participer d'un projet collectif et social, est vraiment une question qui est extraordinairement importante dans une société comme la nôtre aujourd'hui.
Bien, c'est ça qui a un petit peu motivé mon envie de poser ce type de question. Et j'en veux, j'ai envie de dire pour preuve, deux exemples. Le premier, c'est que j'ai l'impression, et vous me direz si mon impression est bonne ou si elle est faussée, qu'il y a un petit peu de perte de repères, que ce soit chez les jeunes ou même chez les adultes en définitive. On est vraiment dans une société... j'ai presque envie de dire américaine, où c'est du chacun pour soi, pour rester poli. Et alors, je me réfère aussi à une période bien plus proche de la nôtre. C'était il y a maintenant 3 ans. C'était pendant la période Covid. Je me souviens, pour l'époque, qu'il y avait une véritable solidarité entre les gens qu'on croisait en rue, une vraie politesse. On allait dans un magasin quand on avait la chance de pouvoir y être. Et il n'était pas rare de voir quelqu'un qui disait « Mais je vous en prie, passez devant, vous avez moins que moi, etc. » C'était de manière spontanée, naturel. Et dès que la vie a repris son cours normal, j'ai envie de dire, ma sensation est qu'on est retourné à l'individualisme, on est retourné à l'égocentrisme, et encore au jour d'aujourd'hui, on est prêt à tuer père et mère pour une place dans la file de voiture. Est-ce que vous êtes d'accord de ce constat?
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire quelque part que depuis toujours, la question que est-ce qu'il y a quelque chose de plus que l'individu, c'est-à-dire un groupe est plus qu'une somme d'individus. Elle est portée, le groupe est porté par un idéal, par une idéologie, par un projet, par une croyance, par quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose au-delà de l'individu, au-dessus de l'individu. Que ce soit un idole, un dieu, ou une croyance, ou un projet. Ça n'est pas spécialement mystique. C'est de tous les ordres, quand un groupe se constitue, il est porté par quelque chose qui le transcende, au-dessus de lui. Alors que quand on abroge le groupe, quand on le fait disparaître, il ne reste que l'individu. Et alors, à ce moment-là, surgit une autre question. Et la question est très simple, c'est pourquoi est-ce que j'ai moins que l'autre? Je veux plus que l'autre. Car on a besoin d'être reconnu. Et dans l'individualisme, la reconnaissance, c'est d'avoir plus que l'autre. Alors que quand on est dans un groupe, le plus, c'est pas l'autre, c'est le groupe. Et donc, le groupe devient un pilier sur lequel je m'appuie. Et quand mon groupe a l'impression d'atteindre son objectif, je suis porté par la fierté de l'avoir atteint. Et un groupe, il est porté par de la solidarité, de l'entraide. Il y a toute une série de valeurs qui vont circuler dans un groupe qui sont naturellement porteuses. L'agressivité, tout ça est contenu aussi par les processus groupaux. Et quand il y a eu le Covid, on était porté par quelque chose qui était plus. C'était la vie, la survie, la protection, le bien-être. Et donc, à ce moment-là, on était transcendé par quelque chose. Une fois que le projet transcendant, c'est-à-dire au-dessus des hommes, disparaît, revient l'individu dans sa singularité. Et en plus, vous parliez des réseaux sociaux, puisque c'est à eux que vous êtes adressés. N'oubliez pas que dans les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui se dissimulent sous des pseudos, se cachent. Et alors, il y a une libération complète de la méchanceté, de la misère, de la jalousie, et toutes ces choses qui sont contenues par un processus groupal.
Eh bien, justement, Jean, pardonnez-moi de vous interrompre, Jean Van Emmerich, mais comment expliquer ces probablement la nature humaine, mais justement, ces réseaux sociaux, à la base, c'était un espace de liberté totale. Comment expliquer que souvent, eh bien, l'être humain va chercher le mauvais côté des choses plutôt que le bon, parce qu'on pourrait très bien utiliser ces réseaux sociaux uniquement à bon escient, naturellement. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des empêcheurs de... Enfin, je ne vais pas des empêcheurs de tourner rond, mais que la nature humaine fait que, eh bien, il y a du harcèlement moral, il y a bien sûr des fakes en tout genre, il y a des arnaques, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment dû uniquement à l'individualisme ou bien c'est vraiment la nature humaine qui ne serait pas, selon vous, bonne par essence ?
Avec le métier que je fais, je pense que je ne peux plus vraiment dire que la nature humaine est fondamentalement bonne. Hein, j'aime beaucoup Rousseau, mais je pense quelque part que je ne peux pas l'accompagner dans cette idée que l'homme, au départ, est naturellement bon. L'idée fondamentale, c'est que pour exister, nous avons besoin de deux moteurs. Nous avons besoin de réussir un certain nombre de choses que nous voulons avoir. C'est tout ce qui sort de, relève de l'ordre du désir, de l'envie. J'ai envie de certaines choses portées par des désirs. Et puis, il faut une reconnaissance sociale. Et la reconnaissance sociale, c'est le fait d'être validé par ses pairs, d'être reconnu. Et quand quelqu'un a une validation et que vous ne l'avez pas, ça déclenche immédiatement de la rivalité, de la jalousie, de la méchanceté, de la parano, de... Bon, et donc, alors après, si vous avez des hommes politiques comme Trump qui poussent cette valeur à l'extrême, bien évidemment, il y a un phénomène de diffusion dans le collectif qui est extraordinairement toxique. Or, aujourd'hui, on est abreuvé de discours rivalitaires qui prônent la peur, qui prônent la colère. Et donc, il y a une diffusion permanente d'affects extraordinairement négatifs dans le quotidien, relevé aussi par le fait que quand on se cache, à ce moment-là, ce côté misérable que l'on a en soi et que l'on dissimule la plupart du temps dans le monde, parce qu'on a les autres qui nous regardent et on ne veut pas être surpris, tout à coup, grâce au réseau social et un pseudo, je n'ai plus aucune honte à laisser aller cette rivalité, cette méchanceté, qui est la plupart du temps portée par la jalousie ou par la peur.
Bien. En fait, je voudrais qu'on revienne, si vous en êtes d'accord, sur la question du jour, l'essence même de la question. Faut-il réinstaurer un service civil ou militaire en Belgique ? En quoi, justement, selon vous, puisqu'on en était... Enfin, moi, personnellement, je suis favorable, pour être honnête. En quoi est-ce que ça pourrait être utile ? Alors, je sais que le côté militaire, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais le service civil me paraît à tout le moins utile. Mais en quoi est-ce que cela pourrait résoudre le problème, selon vous ? Selon le psychologue que vous êtes, bien sûr.
Un apprentissage d'être porté par un projet plutôt que par son intérêt personnel, de se mettre au service de quelque chose, de vivre en collectivité, d'apprendre la solidarité, l'entraide, la vie collective, qui est un phénomène extraordinairement important dans l'apprentissage. Et toutes les nations qui ont maintenu des groupes d'apprentissage, quel que soit, je dirais, d'obédience, voit bien que les jeunes qui ont participé à ce genre de choses ont acquis des valeurs qui vont lutter contre justement ce côté misérable de l'individu. Donc le collectif est quelque chose qui est un apprentissage intéressant toute notre vie, et pas seulement, je dirais, à 20 ans, mais bien évidemment, quelque part, que les jeunes qui grandissent dans un univers de l'individualisme, quand on les met dans un groupe, vont se confronter à des questions qui vont les faire bouger, qui vont les faire, comment dirais-je, se modifier leur trajectoire et apprendre des valeurs qui vont soutenir le civisme, quoi. La solidarité, l'entraide, la collectivité, la réflexion commune, les phénomènes de relationnels, quand on est en groupe. Et l'école aujourd'hui n'a plus cette vertu-là, parce que l'école, de nouveau, prône l'individualisme. Hein, c'est, chacun est là dans un concours avec soi-même pour réussir. Tandis que dans un projet collectif comme un service civil, il n'y a pas de projet de compétition. C'est pas la compétition, c'est autre chose. Et donc, apprendre la compétition, c'est une chose intéressante, mais apprendre la solidarité, la collectivité, c'est vraiment très intéressant sur le plan psychique.
Bien, alors je voulais vous poser une dernière question, parce que là on arrive sur un de vos terrains de jeu favoris. Je veux parler du couple par exemple, vous allez me dire pourquoi il vient avec le couple maintenant, mais finalement, à vous écouter, j'ai envie de dire, le couple correspond pleinement au profil que vous donniez, c'est-à-dire un projet commun, enfin à la base normalement, un projet commun, quelque chose qui nous dépasse, puisque l'amour par définition, ben, personne ne peut le définir totalement, en tout cas ne le connaît totalement. Comment expliquer qu'il y a toujours autant de divorces et de dissensions dans les couples, alors que normalement, eh bien, la vie faisant et le couple en lui-même devrait souder les acteurs.
Ouh là là, Didier, vous me posez une question. Comment voulez-vous que je réponde à une question aussi vaste en quelques minutes, si ce n'est que le couple n'est pas un groupe. Hein, il faut qu'il y ait trois pour qu'il y ait un groupe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là se pose la question de comment on va vivre en sachant que deux peuvent éventuellement se rapprocher et que le troisième peut se sentir un peu exclu. Alors à ce moment-là, le groupe se constitue, c'est-à-dire qu'il y a des tensions qui vont naître dans la relation. Parce qu'un groupe, c'est un phénomène collectif difficile. Un couple n'est pas un groupe. Un couple est porté par une personne derrière à lui, mais ce n'est pas un groupe. Pour qu'il y ait groupe, il faut qu'il y ait 3, 4, 5 ou plus. Hein, il faut qu'il y ait une triangulation, il faut qu'il y en ait 3, avec toutes les tensions. Parce que naturellement, quand je disais qu'un groupe comme le service civil a des valeurs positives, c'est vrai que c'est un travail. C'est pas facile, la vie de groupe. Hein, c'est très complexe. Mais c'est cette complexité-là qui est justement un processus d'apprentissage. Dans un couple, une fois qu'on devient un groupe, il y a un troisième, mais à ce moment-là, ça foire. Donc le couple est une entité vraiment singulière qui vit selon des principes totalement séparés de la vie collective, et la collectivité naît avec 3 et naturellement toutes les autres arithmétiques.
Bien. Bah, vous voyez que vous êtes capable d'y répondre en quelques minutes. C'est vrai que ça demande des développements qui pourraient prendre des années. Mais en même temps, voilà, la question était posée. Et donc, bien, merci de nous avoir permis de voir un petit peu plus clair dans cet imbroglio, finalement. Parce que service civil ou militaire, bien, ce serait quand même comme une petite révolution. Beaucoup de gens pensent le service militaire comme étant quelque chose de restrictif et de clairement... presque dictatorial, alors que pour l'avoir fait, mon service militaire, j'étais dans une des dernières levées de l'époque, eh bien, avec du recul, alors que j'étais tout sauf militariste, et je le suis toujours d'ailleurs, finalement, avec du recul, ça m'a appris, et vous le disiez très justement, énormément de choses sur mes petits congénères, notamment que j'étais un privilégié d'une certaine façon, parce que vous rencontrez tout le monde, et ça met en perspective, ça permet de se dire que bah, finalement, on n'est pas toujours le plus malheureux, on n'est pas toujours le plus malchanceux, on est parfois même privilégié, je le disais. Et donc ça, c'est quelque chose qui se perd un petit peu. Jean Van Emmelreich, merci infiniment d'avoir prêté votre concours à cette question du jour et votre expertise surtout. J'espère à très vite, je vous souhaite une bien belle journée. Je rappelle que vous êtes psychologue et spécialisé dans la psychologie des couples, bien sûr.
Merci beaucoup, Didier. Bonne journée.
Très belle journée à vous. Merci beaucoup, Jean-Van Emmelreich.